Bonjour Pascal.
Bonjour Stan.
Nous sommes au module 4 de cette cour MVA qui est une introduction à Azure Active Directory. On va parler dans ce module du portail des applications, on va parler également de Single Sign-On pour accéder à ces applications.
On va explorer encore une fois une fonctionnalité qui est différente pour l'édition premium d'Azure Active Directory. Et puis, on va regarder comment fonctionne ce fameux portail des applications qui va donner accès aux utilisateurs à des applications en mode SaaS sur le web. Donc, comme on a dit plusieurs fois dans ce cours déjà, il y a des fonctionnalités qui existent ou qui n'existent pas dans toutes les éditions de Azure Active Directory. Là, on parle d'une fonctionnalité qui existe dans les trois éditions, donc la gratuite, la basique et la premium d'Azure Active Directory, mais qui a des limites dans les deux versions, deux premières versions, gratuite et basique. On est limité à 10 applications par utilisateur. Et après, si on paye la version premium, on n'a aucune limite sur le nombre d'applications. Vous verrez dans le portail, c'est quand même une fonctionnalité qui est intéressante pour ce cadre-là, dans ce cadre-là. Donc, je te laisse décrire un petit peu la fonctionnalité, puis on va revenir ensuite sur les...
Donc, l'idée, pourquoi on a conçu en fait ce portail d'accès aux applications ? Parce que finalement, on est en entreprise, dans le domaine de la mobilité, face à deux mondes. D'un côté, l'informatique, l'IT, dont l'objectif est principalement de protéger les accès à l'information au sens large. Et de l'autre côté, on a l'utilisateur qui n'a qu'un but, lui, c'est en gros de se faciliter la vie dans son travail. En gros, basiquement, c'est ça. Donc l'IT doit fournir tout ce qui va bien pour que l'utilisateur soit très mobile et très, entre guillemets, productif, même si on n'aime pas le terme productif, mais c'est le but au final, tout en lui facilitant la vie. Donc on a différentes technologies du coup qui vont rentrer aujourd'hui dans le paysage entre guillemets urbain des systèmes d'information. On a tout ce qui est virtualisation de bureaux, où effectivement on peut avoir des applications et des codes qui vont tourner dans le data center et qui seront exposés en bureau à distance sur différents périphériques. On a tout ce qui est également identité hybride qui aujourd'hui va se généraliser, et ça on est dans un cours dédié justement à l'identité hybride dans le cloud, donc on comprend parfaitement. Avec des choses comme la gestion des applications et des périphériques mobiles par les IT, de manière plus ou moins contrôlée, en fonction effectivement des si les périphériques appartiennent ou pas à l'utilisateur ou appartiennent ou pas à l'entreprise. Et pour cela, on a des solutions dans le cloud, comme par exemple Microsoft Intune, qui s'appuie là encore sur l'identité telle que Azure Active Directory.
Tout à fait.
Et puis, dernière chose, on a effectivement tout cet accès à l'information et sa protection. L'accès à l'information peut également être fait au niveau de l'application où effectivement on va gérer quels sont les accès aux applications avec quel type d'identité. Donc, si on regarde là encore le paysage entre guillemets des systèmes d'information aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des choses qui ressemblent à des choses pas très belles. C'est-à-dire, d'un côté, on a des choses bien maîtrisées par l'IT, qui est toute la partie cloud privé avec les identités sur site, donc avec des applications stockées dans les data centers de l'organisation. On a également tout ce qui est équipement géré par l'organisation. Mais en plus de tout ça, donc de cette base qui est en bas du schéma, on a également les équipements, on va dire, personnel de l'utilisateur, qui l'utilise en complément, mais pas pour embêter l'IT, simplement parce que ça l'arrange pour travailler en situation de mobilité. Donc effectivement, ces équipements, ça peut être des tablettes, ça peut être des téléphones, ça peut être des PC ou des Mac. Hein. Et là encore, s'il se sert de cet équipement, l'utilisateur, c'est pas pour embêter l'IT. C'est simplement parce que son travail est simplifié dans ce mode-là, où il peut effectivement continuer son travail sur une tablette ou lire un mail dans le métro ou autre. Et qu'est-ce qu'on voit ? Finalement, tous ces équipements, on va dire mobiles au sens large, sont interconnectés sur plein de services de cloud de type software de service public. Et là encore, on parlait de phénomènes en début de ce cours MVA, de phénomènes de shadow IT. Quand l'informatique interne n'est pas capable de répondre dans des temps acceptables aux besoins des métiers, il y a toujours des personnes dans les métiers qui auront l'intelligence ou qui seront conseillées par d'autres personnes pour aller directement se servir dans des services clés en main et du coup en fait répondre à un besoin. On va prendre un exemple simple. Prend un besoin comme par exemple synchroniser des fichiers entre différents périphériques mobiles. Le PC de l'entreprise, le PC du boulot par exemple, le PC personnel pardon, et puis je sais pas, une tablette ou un téléphone. Il existe des solutions chez Microsoft qui permettent de faire ça. Donc il y a des solutions dans Windows Server, les Workfolders par exemple, dans Windows Server 2012R2 qui permettent de synchroniser entre plusieurs PC des répertoires. On a OneDrive for Business, qui donc s'appuie derrière sur une infrastructure SharePoint, mais qui permet de synchroniser du contenu sur plusieurs périphériques. On a des solutions grand public, OneDrive. Mais bon, si l'informatique interne ne met pas en place ce mécanisme et que l'utilisateur en a besoin, bah, au bout d'un moment, il va finir par installer d'autres solutions. Donc il pourra utiliser du OneDrive, mais il peut utiliser du Dropbox, il peut utiliser du Box, il peut utiliser plein de choses.
Oui, et puis ça peut être également un choix de l'IT, d'utiliser une solution tierce comme Dropbox for Business. Ou...
Exactement. Et donc, du coup, on s'aperçoit que finalement, au-delà des ressources de l'entreprise, les IT aujourd'hui consomment de plus en plus, soit de manière gérée par l'IT, soit de manière shadow IT, payée par les métiers,
voilà.
Plein de services de cloud. Alors on verra dans un module ultérieur un petit peu comment un IT peut faire l'analyse un petit peu de ce qui est utilisé comme service et comment après le proposer de manière intelligente dans le portail des applications dont on va parler dans ce module-là. Mais à savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des grandes chances dans l'entreprise, on trouve des utilisateurs qui utilisent Dropbox, d'autres qui ont utilisé du BoxNet, d'autres qui ont utilisé du OneDrive, d'autres qui ont utilisé un compte Gmail, d'autres qui ont utilisé, etc., etc. Voilà. Dans tous les cas, quel que soit l'écosystème qu'on peut avoir en termes d'applications, de devices, etc., globalement, on peut poser l'identité comme un point de contrôle pour l'accès à tout cela. Donc, d'un côté, on va avoir le data center de l'organisation, historique, avec à l'intérieur un système de gestion d'identité massivement aujourd'hui utilisé dans l'entreprise en squelette de l'identité, c'est Active Directory sur Windows Server. On peut également avoir d'autres annuaires LDAP, voire avoir dans certaines applications des annuaires LDAP applicatifs. À l'opposé, dans le cloud public, eh bien effectivement, on a des services tels que Office 365 ou Azure ou d'autres solutions de SaaS qui eux vont reposer sur d'autres identités, pas forcément celle de l'entreprise. L'idée avec Azure Active Directory, et c'est l'objectif de ce cours MVA, c'est vraiment de montrer que l'interconnexion et la projection des identités de l'entreprise à destination d'un cloud public pour former au final un cloud hybride est relativement simple. Que cela va permettre du coup au final, l'Azure Active Directory va servir de proxy d'authentification ou de point de contrôle de l'identité pour accéder à des services qui sont dans les clouds de Microsoft, par exemple, mais également chez d'autres fournisseurs de solutions. Voire servir de synchronisation vers d'autres systèmes d'identité qui sont extérieurs à Microsoft. Au final, pour servir également l'utilisateur sur certaines fonctionnalités de type libre-service, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Azure Active Directory pour faire, par exemple, autoriser l'utilisateur à faire un reset, une réinitialisation de son mot de passe en mode self-service. On va voir aujourd'hui avec le portail, dans ce module-là, avec le portail des applications, qu'on va également fournir à l'utilisateur un portail libre-service dans lequel il va pouvoir faire certaines opérations.
Donc effectivement, comme tu le dis Stan, hein, l'objectif c'est de simplifier l'accès des utilisateurs à des applications qui ne sont pas dans l'entreprise, qui ne sont pas gérées directement par l'entreprise, donc des applications de type SaaS qu'on va trouver sur le web.
Donc on sait que des applications Microsoft gérées par l'entreprise, mais le but c'est de centraliser pour l'utilisateur toutes ces applications SaaS dans un même portail.
Exactement, de façon à ce qu'à partir de ce portail, il puisse simplement accéder à ces applications, mais sans en plus avoir à retenir 36 000 logins différents, mots de passe différents pour ces différentes applications. Donc il y a des solutions pour ça, il y a de la fédération, des choses comme ça, mais il y a aussi des applications qui ne sont pas fédérées et pour lesquelles on a besoin de fournir une entité et un mot de passe. Donc ça va être un portail applicatif, ce fameux portail libre-service pour les applications de Azure. Ça va être un portail applicatif dont l'URL est toujours la même, c'est myapps.microsoft.com. Donc les utilisateurs n'ont qu'à se connecter à ce portail, s'authentifier avec leur identité de leur Azure Active Directory, et puis, ou de leur entreprise, enfin leur identité unique.
Voilà.
Et puis ils auront accès de la sorte à leur portail, leur donnant accès à des applications.
Passage, donc, on peut citer qu'il y a également les versions mobiles.
Exactement, donc on verra qu'il y a des applications dédiées à ce portail pour les plateformes mobiles qui évitent d'aller taper l'URL myapps.microsoft.com. Donc l'idée, hein, comme on le dit, c'est d'émanciper les utilisateurs, donc de leur permettre d'être plus autonomes dans leur travail et plus efficaces dans leur travail. Donc on va avoir par exemple un panneau d'accès aux applications qui va être personnalisé, un petit peu comme on l'a vu dans un des premiers modules de ce cours, aux couleurs, à la marque de la société. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre nos logos, notre identité de l'entreprise sur ce portail. Donc sur ce fameux myapps.microsoft.com, on s'authentifie et hop, on en récupère un portail aux couleurs de l'entreprise. Idem sur l'application mobile. On va pouvoir, à partir de ce portail, les utilisateurs vont pouvoir, à partir de ce portail, accéder aux fonctionnalités de, par exemple, de reset de mot de passe, de réinitialisation de mot de passe. Et puis, une autre fonctionnalité qu'on verra dans, qu'on voit dans un autre module, oui, je crois, sur la gestion des groupes en mode libre service pour nos utilisateurs depuis le cloud. On va pouvoir également accéder à des applications qui sont dans le site de l'entreprise.
Dans le data center.
Dans le data center de l'entreprise, via un nouveau composant également d'Azure, enfin un composant très récent d'Azure, qui s'appelle le proxy d'application Azure Active Directory.
Mais tellement récent qu'il est encore en version préliminaire, donc il va prochainement en version finalisée prochainement. Mm. Et puis dernier point, effectivement, la gestion de son propre compte. C'est-à-dire, effectivement,
cette fameuse page de profil qui nous donne accès à certaines opérations sur notre propre compte.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit tour un petit peu de à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ici plusieurs Azure Active Directory, donc celui utilisé pour ce cours, et j'en ai également un autre que j'ai provisionné. L'utilisateur, tu l'as dit, va venir se connecter sur myapps.microsoft.com. Il arrive sur la fenêtre d'identité, on va dire, classique d'Azure. Là encore, en fonction de l'identité qu'il va choisir. Donc là, il s'est rappelé que j'étais déjà venu avec un compte qui était sur Azure Active Directory MVA. Eh bien, il va pouvoir repersonnaliser. Donc si je sélectionne ici, tu vois, automatiquement, j'ai le branding qui revient. J'avais appliqué. Et donc là, je vais pouvoir me connecter avec cet utilisateur que j'ai créé au préalable dans Azure Active Directory. Là, c'est la première connexion au portail. Donc normalement, c'était le seul élément qu'on n'avait pas mis dans les personnalisations, qui était une bannière, un logo. On peut personnaliser ici, ne pas avoir Azure, mais avoir effectivement le fameux branding, tu l'as dit, de l'entreprise. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas déclaré d'application dans mon portail. Contactez votre administrateur pour plus d'informations. Tu parlais du profil, on l'a ici.
Voilà.
Avec les deux options, effectivement, qui sont changer le mot de passe ou demander une réinitialisation. Et donc, pour l'instant, ici, je n'ai pas d'application sur ce compte-là. Donc, je vais me désactiver. Je vais te montrer un compte sur lequel il y en a un petit peu plus. Et on verra après comment provisionner les applications, bien entendu, à l'intérieur. Donc là, tu vois, par exemple, ici, j'ai un certain nombre d'applications qui sont apparues. J'ai également d'autres options, et ça, on en reparlera plus tard dans les autres modules liés à Azure Active Directory. Mmh. Et donc ici, par exemple, j'ai mis 4 applications, 4 accès, entre guillemets, à des applications. Donc, j'ai mis, par exemple, tu vois, l'application Air France, l'application AWS, etc. L'objectif de ce portail, c'est de faire du single sign-on. C'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, on a différentes options pour les mots de passe, pour faire en sorte que l'utilisateur n'ait à retenir, finalement, quasiment que le mot de passe pour se loguer à ce portail. Et le reste est fait pour lui de manière automatique. Alors comme je ne sais plus où j'en suis dans ma configuration, je vais essayer par exemple avec Twitter. Quand je clique ici sur Twitter, j'ai une redirection qui est faite de manière automatique. Et on voit ici, tu vois, que je suis bien connecté avec mon identifiant Twitter. Je n'ai rien eu à faire en fait. Je n'ai pas eu de prompt, entre guillemets, qui a été fait en termes d'authentification.
Alors qu'il n'y a pas de fédération dans ce cas-là.
Non, ici on est dans un cas très très simple. C'est simplement, en tant qu'utilisateur, en fait, la première fois que je suis venu me connecter sur le portail, il m'a fait installer un petit, alors qu'on est sur Internet Explorer, c'est un petit ActiveX, quand on est sur du Firefox ou du Chrome, c'est une extension qui s'appelle le Access Panel, qui est en fait un système qui va permettre en fait de faire une saisie de login mot de passe pour un service donné, d'enregistrer, de protéger le mot de passe, de l'envoyer, de le stocker dans Azure Active Directory. Donc en gros, mon mot de passe Twitter a été enregistré dans Azure Active Directory de manière sécurisée. Et quand je me log ici avec mes identifiants, eh bien, le connecteur va chercher l'information et la délivre automatiquement au service. Ici, c'était Twitter. Si je voulais le changer, je pourrais venir ici mettre à jour, il y a un petit bug d'interface, mettre à jour les paramètres. Et là, je pourrais dire, ben non, en fait, maintenant, pour me connecter à Twitter, c'est pas ça, c'est ça. Et du coup, ce sera enregistré. Donc, on le verra tout à l'heure, on a différentes options. Là, typiquement, c'est Twitter, on va dire, dans mon exemple, est très personnel. Hein, c'est lié à mon utilisateur et c'est moi. Mais on pourrait utiliser, donc du coup, je l'enregistre individuellement par utilisateur. Donc chaque utilisateur peut mettre ses propres identifiants de ses autres applications. Si je devais faire une analogie ou simplifier le message, je dirais qu'une des options pour les mots de passe des applications, quand elles sont très personnelles, C'est exactement comme un enregistreur de mot de passe, un porte-clés numérique, comme on peut en avoir plein qui existent aujourd'hui sous la forme d'extension pour les navigateurs. On est réellement dans cet esprit, et là effectivement, ce qui protège tous ces mots de passe, c'est Azure Active Directory avec le login et le mot de passe de Azure Active Directory pour cet utilisateur. On reviendra après sur le détail de tout ce qu'on peut faire. Donc derrière, l'idée, c'est effectivement ça. L'utilisateur, il a toutes ses applications qui apparaissent sous la forme d'icône. Et quand il a besoin d'accéder à telle ou telle application, il clique dessus. Donc, et automatiquement, il est logué. Même si derrière, les référentiels sont différents en termes d'identité.
Donc rappelons, si on est en gratuit ou en basique, on ne peut en avoir que 10.
Exactement.
Dans cette page-là. 10 applications.
Exactement. Si on est en mode
premium.
Full patate, hein, donc le mode premium, on peut en mettre tant qu'on veut. Et du coup, quand on aura une grande liste d'applications, bah, tout l'intérêt ici sera de pouvoir faire facilement une petite recherche et dire automatiquement, je veux, voilà, donc là si je fais A, oui. On voit ça me filtre automatiquement en fait en fonction des premières lettres. Donc si je tape A, ce n'est plus que les deux consoles. Donc c'était la première petite démonstration, on va dire, côté usage dans un navigateur, quel qu'il soit. Maintenant, si on est sur un périphérique dit Android.
Donc la démonstration qui ne plante jamais. Hein.
Celle qui est sous forme de slide.
Sous forme de PowerPoint. Donc ici, on voit une capture d'une tablette Android sur laquelle on a installé quelques applications Office. On voit qu'on a les previews de Word, Excel, PowerPoint. Hein, donc c'est tout récent. Et puis cette fameuse application MyApps qu'on est allé chercher dans le store. Donc si on passe à la slide suivante, on voit l'application MyApps. Donc il suffit de chercher Microsoft MyApps dans le store, dans le Google Play, pour trouver cette application. Il suffit de l'installer, elle est gratuite. Quand on la lance, donc la première fois, on va s'authentifier avec son compte dans Azure Active Directory. Donc là, pareil, on passe sur le mot de passe et hop, on a la personnalisation de la page d'accueil, de la page de logon qui apparaît. Et puis, on tombe sur le portail qui ressemble quand même beaucoup à ce que tu viens de nous montrer dans un navigateur.
Exactement.
Donc, même expérience, qu'on soit sur Android ou dans un navigateur web.
En fait, la plupart de ces applications, c'est principalement un container avec le navigateur à l'intérieur. Mais ça évite effectivement d'avoir
ce fameux composant dont tu parlais et dans l'application.
L'Access Panel.
Voilà.
D'accord.
Qui va gérer le mot de passe.
Donc tiens, maintenant, je te propose de le faire en version iPad.
Donc on l'a fait sur un Android, on va voir ce que ça donne sur un iPad. Donc je vais basculer sur l'iPad. Donc maintenant que je suis sur l'iPad, donc vous voyez que là je suis dans le store des applications d'iPad, donc l'App Store.
L'App Store.
J'ai trouvé, en cherchant Microsoft MyApps, j'ai trouvé l'application MyApps. Je l'installe et là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, comme je l'ai déjà installé, je vais venir sur mon bureau de l'iPad, bureau entre guillemets, lancer mon MyApps. Donc étant donné que j'ai déjà lancé il y a 5 minutes, je me suis déjà authentifié. Donc même principe que sur l'application Android, même page de logon, etc. avec la personnalisation, je tombe directement sur ma page avec mes applications. Si je la referme complètement, l'application, en faisant ceci et puis en tirant vers le haut l'application ici, je ferme mon authentification, je me délogue. Hein, il y a quand même un minimum de sécurité. Donc si je lance une application, par exemple Evernote, automatiquement ça va m'authentifier sur l'application, sur la partie web de l'application et me lancer l'appli. Donc on voit bien en regardant tout en haut de la page que j'ai bien été logué avec mon compte. C'est un petit compte de démo que j'ai fait. Donc il se trouve, alors là c'est un petit peu dommage pour la démo, mais il se trouve que cette application n'est pas supportée sur le navigateur de l'iPad. Bon, c'est les petits aléas du direct, mais en tout cas ça montre que ça a marché. On est bien tombé sur la page web de l'appli et on a bien été
donc
logué.
On est authentifié avec un autre compte effectivement sur lequel tu avais enregistré via le Access Panel en fait.
Exactement, via l'équivalent du Access Panel. Exactement.
Alors, si on parle un peu de ces applications, il y a quelques concepts à connaître. Première, c'est qu'on va faire du single sign-on de trois façons différentes. Option numéro 1, qui est l'option presque idéale, mais peut-être la plus complexe à mettre en œuvre, c'est de faire de la fédération d'identité. Donc, c'est-à-dire que on va utiliser on est en mode fédéré avec des applications SaaS externalisées, et du coup, on va présenter les identités de l'Azure Active Directory à ces applications, leur présenter les jetons SAML, et donc, du coup, en fait, pouvoir entrer directement dans l'application X, Y ou Z fédéré sans avoir à recréer un autre login, un autre mot de passe dans l'application tiers. Plutôt intéressant parce que
je traduis pour l'utilisateur, j'entre mon mail et mon mot de passe que je connais dans mon entreprise.
Donc tu le rentres au début de ta page pour entrer sur le portail applicatif, mais après tu n'auras rien d'autre à faire.
Voilà, parce que l'application m'aura déjà authentifié par ce logon-là.
Un exemple très simple, Office 365. Quand on arrive sur le portail donc Outlook ou SharePoint, on arrive sur le portail My Apps, on s'est logué en Azure Active Directory. En fait, Office 35 est naturellement fédéré en fait, avec Azure Active Directory, vu que c'est le même repository. Du coup, on lance, ça marche. Mais on pourrait le faire avec d'autres systèmes. Et du coup, l'idée derrière, effectivement, c'est de ne pas avoir à recréer des identités. On a également des fédérations, des mécanismes de synchronisation avec d'autres annuaires. Je sais pas, on va prendre par exemple Workday, qui est une solution d'applicatif pour entreprise, qui ont leur référentiel, et leur compte et leur utilisateur. On peut faire des importations de provisioning dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir en fait récupérer les objets et les fédérer avec le Active Directory, et inversement. Bon, en partant dans le détail, c'est un peu plus, c'est des cas un peu, chaque fois c'est des cas un peu particuliers. Mais l'idée, c'est si vous pouvez utiliser la fédération, allez-y, lâchez-vous, c'est plutôt une bonne idée. Autre manière, c'est de saisir l'utilisateur, la première fois qu'il va aller sur l'application, saisir son login et son mot de passe dédié à l'application, donc c'est une application SaaS ou web externe, et donc il va saisir son identité dans cette application-là. Donc je ne sais pas si on se log par exemple sur Dropbox, eh bien ce serait de mettre le compte Dropbox et le mot de passe Dropbox. Donc ça c'est pratique pour l'utilisateur, pour l'IT c'est quand même mieux de faire une sorte de fédération où effectivement on a des accords avec Dropbox, on a bien travaillé avec eux, et ce qui fait qu'on peut réutiliser directement et interconnecter les deux systèmes entre eux. Ce qui fait qu'il n'y a pas à reprovisionner entre guillemets des nouveaux comptes. Le nouvel utilisateur on ne va pas lui dire bah, tiens tu vas te créer un compte dans Dropbox et après comme ça on fera la liaison. Donc on a des systèmes comme ça de provisioning, je t'expliquais entrant ou sortant. Permettre de dire, là ça va dépendre des applications, de dire quand je vais créer mon groupe et mon compte dans l'Active Directory et que je vais associer cette application, automatiquement ça va me créer dans l'application en face l'autre service, les groupes et les comptes. Voilà. Donc mot de passe, ça c'est effectivement individuel à chaque utilisateur. D'accord ? Login mot de passe, oui. Individuel à chaque utilisateur. Maintenant on a un cas qui est le compte existant partagé. Je vais prendre le cas de Twitter parce que je le redétaillerai par la suite. C'est de dire, j'ai par exemple trois community managers pour mon organisation qui postent sous le nom de mon organisation dans un compte unique Twitter des données sur mon organisation. Alors on a l'option numéro 1 qui est de dire les trois community managers, je leur donne le login et le mot de passe de Twitter, puis ils se débrouillent entre eux. Mais du coup, c'est-à-dire je les donne, puis quand le community manager part, il a le mot de passe, il faut penser à le changer. Ou alors, en tant qu'administrateur, je peux directement, quand je vais publier une application, lui associer un compte et un mot de passe qui seront automatiquement provisionnés avec le packaging de l'application. Et du coup, l'utilisateur, quand j'aurai juste à mettre des personnes dans un groupe et affecter à ce groupe une application. Chose qui sera d'ailleurs vue dans des modules supplémentaires qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, on peut ajouter ses propres applications, donc des applications cloud, soit monotenant, soit multitenant. Office, par exemple, on est un bel exemple. Mm-hmm. Ou aller chercher des applications dans la galerie qu'on va voir en démonstration. Et on peut également exposer dans ce portail applicatif des applications internes. On va passer pour cela par un service dédié à Premium, Azure Active Directory Premium, qui s'appelle Azure Web Application Proxy, qui est un service dans lequel, en fait, de sorte de reverse proxy en passant par le cloud Azure, qui permettent d'exposer des applications internes directement à travers de ce portail d'applicatifs. Donc on voit vraiment que le but, c'est de ramener l'utilisateur dans une expérience simple, l'accès aux différentes applications qu'il consomme tous les jours, que ces applications soient externalisées dans différents clouds de Microsoft ou d'autres offres de cloud, ou des applications qui sont internes dans le data center d'entreprise. Donc, pour revenir à cette histoire d'application dans le data center d'entreprise, avec ce proxy d'application, comment ça va fonctionner ? Vous avez votre DMZ, je crois que ça existe encore, donc le réseau entreprise, basiquement, et là-dedans, on a les applications qu'on souhaite exposer à l'utilisateur dans ce portail MyApps. On va installer sur les applications un connecteur. Ce connecteur, basiquement, va être une sorte d'agent proxy, qui va renvoyer en fait et rediriger les flux vers le proxy applicatif qui est un service d'Azure Premium. D'accord ? Il va faire donc office de super reverse proxy dans le cloud. Et du coup, les utilisateurs vont se connecter à l'application MyApps et quand ils cliqueront sur l'icône, en fait, elles seront redirigées automatiquement via le reverse proxy dans Azure vers les ressources internes de l'entreprise. En gros, basiquement, le connecteur va monter plus ou moins un VPN SSL sortant à destination d'Azure pour faire simple. Ce fameux compte partagé dont je t'ai parlé, il est utile pour les utilisateurs qui partagent donc une application avec le même compte. Donc là, j'ai pris Twitter, organisation, on pourrait marcher ça avec tout ce qui est communautaire, hein, Facebook ou autre. Ça peut être également une application qui est sur lequel qui est un peu codée en dur, sur lequel il y a un compte générique de saisie, par exemple. Et puis l'idée, oui, c'est effectivement
CRM, une facturation.
Enfin. Voilà, par exemple, une application qui est utilisée par les hôtesses à l'accueil. On peut leur créer un compte par personne pour utiliser l'applicatif. Donc du coup, elles ont un compte générique. L'idée, c'est ça. Donc l'objectif, c'est de protéger ces comptes d'organisation parce que c'est l'utilisateur administrateur AD qui va contrôler les mots de passe de ces comptes partagés. Donc il peut les réinitialiser quand il a envie. Et puis en gros, l'assignation des utilisateurs va se faire par l'appartenance à des groupes. On va créer un groupe, les groupes de l'application X par exemple. On va mettre tous les utilisateurs qui doivent être membres de ce groupe pourront accéder du coup à l'application X avec les credentials donnés par l'administrateur. Un utilisateur peut avoir accès à plusieurs comptes partagés, donc il peut être connecté sur son portail d'application, avoir un Twitter et un Facebook, sans connaître dans tous les cas les identifiants et les mots de passe des deux comptes, qui sont des comptes séparés mais partagés. Et puis bien entendu, ces comptes partagés peuvent coexister avec des comptes personnels. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des accès à des applications où il faut s'authentifier de manière personnelle et également des applications qui utilisent des comptes partagés. Voilà. À noter, c'est que le mot de passe du compte partagé, bien entendu, est sécurisé dans le tenant Azure Active Directory. Logique, hein, d'accord ?
Tout à fait.
Alors, du coup, je propose de te rajouter une application avec compte partagé à ton portail applicatif. Donc, cette fois-ci, je vais aller en tant qu'administrateur dans mon Azure Active Directory. Donc, on va reprendre cette... alors, est-ce qu'on peut reprendre... Oui, on va reprendre celui-ci plutôt. On va prendre mon deuxième WAD parce que ton compte, je crois, est connecté avec...
Sur WAD, Stan, oui.
En même temps, je vais le faire d'ici, ce sera plus simple. On le verra tout à l'heure. Donc, je vais aller ici, parce que là, j'en ai zéro. Donc, on va repartir ce fameux portail d'utilisateur là, qui ici, pour l'instant, était vide. Et on va le remplir.
D'accord.
Donc, je vais venir ici ajouter une application. Trois options pour l'application. Première chose, l'application est développée par mon organisation. Donc, ça veut dire une application, par exemple, qui est hébergée sur la plateforme PaaS d'Azure. Et qui va être donc utiliser mes identités sous forme fédérée par exemple. Option numéro 1, donc ça c'est du, on va dire, du développé métier. Deuxième option, une application qui provient de la galerie. On va voir qu'on a tout un ensemble en fait d'applications qui ont été, on va dire, référencées, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste référencé. Ça permet de dire, tiens, je vais exposer telle application. Dernière option, qui pour l'instant est en aperçu parce que c'est pas encore finalisé à l'heure de cette webcast, c'est de publier une application qui est dans le data center. Et là, on va passer donc du coup par le fameux application proxy de Azure. Donc, on va prendre l'option numéro 2. Donc, l'option numéro 2, et on va prendre par exemple... Bah tiens, on va prendre par exemple un compte... Twitter par exemple, c'est bien ça. Je reprends l'exemple de Twitter, parce qu'il est assez simple. Donc, juste pour montrer quand même que en fait on a ici à peu près 2450 applications qui ont été, je précise, référencées.
Ouais.
Certaines sont en termes de packaging très bien packagées, d'autres le sont
d'autres moins.
D'accord.
Au niveau de l'URL notamment.
Au niveau de l'URL, enfin faut être tout à fait clair là-dessus. Prenons par exemple ici, on va prendre l'application Box, ou Dropbox par exemple. Tiens, Dropbox c'était bien. Je vais en mettre plusieurs applications. Dropbox, donc là on me dit utiliser Azure AD pour gérer l'accès utilisateur, synchroniser les comptes de Dropbox, alors je précise pour business. Donc là ça nécessite typiquement, on précise ici, d'avoir un abonnement Dropbox pour business pour faire l'usage de ce service. Imaginons que je veuille faire Dropbox. Donc là je le rajoute. Et là il me propose de configurer, donc il me dit l'application Dropbox pour business a été rajoutée. Il va falloir que je l'active en vue de l'intégrer à l'Azure Active Directory. Donc là, j'ai plusieurs phases de configuration à faire. Première, c'est de configurer la partie authentification unique avec Azure Active Directory. Donc là, j'ai plusieurs options qui vont s'offrir à moi. Soit j'ai une fédération d'identité faite entre Azure Active Directory et Dropbox for Business. Donc là, quand on veut faire en savoir plus, on a un détail et un white paper spécifique en fait à ce service-là, sur lequel on a bien travaillé. Mais là, l'idée, c'est d'éviter d'avoir à recréer, entre guillemets, des identifiants, des comptes dans Dropbox, alors qu'on pourrait les créer dans Azure Active Directory et simplement consommer les ressources dans Dropbox. Option également, c'est authentification unique par mot de passe. Donc là, on dit, voilà, AD va stocker les informations d'identification du compte pour que l'utilisateur puisse se connecter. Donc là, on voit bien d'ailleurs ce qui va se faire. C'est l'utilisation en fait du stockage du login mot de passe en fait qui sont ceux de la plateforme. Et on a également l'authentification unique existante. Donc là, c'est d'utiliser des services de fédération de notre fournisseur tiers par exemple. D'accord ? Donc option numéro 1, je stocke l'identité unique dans la partie AD, mais je vais faire le réplica dans Dropbox. La deuxième, c'est je stocke que les logins mot de passe de Dropbox par utilisateur. La troisième, c'est je fais réellement la vraie fédération avec les jetons. On va prendre le module simple, parce que c'est mieux ici. Ensuite, on dit activer la configuration automatique d'un utilisateur dans Dropbox. Donc ça veut dire quand je vais créer mon compte utilisateur Active Directory, eh ben, ça va également me le configurer dans le Dropbox. Mm-hmm. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer. Donc là, on voit ici qu'en fait, on fonctionne grâce à des API. C'est-à-dire que c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que Dropbox a exposé des API pour qu'on puisse aller provisionner dans un compte Dropbox Business les comptes utilisateurs, etc., etc. Dernier point, c'est là où on va affecter pour l'application donnée soit des groupes d'utilisateurs, soit des utilisateurs. Là, on peut dire, tiens, je vais mettre par exemple l'utilisateur Pascal Solier. Donc, quand j'affecte un utilisateur à une application, j'ai deux options. Soit je saisis pour lui un login et un mot de passe, ce sera le fameux compte partagé.
Voilà.
Donc là, c'est dans ce cas-là, l'administrateur dirait, je souhaite entrer les données pour l'utilisateur. Soit on laisse décocher, et c'est lors de la première connexion où l'utilisateur devra mettre ses options d'identité. D'accord ? On voit ici les méthodes qui sont affectées pour la partie authentification directe, login mot de passe, ou fédéré. Idéalement, c'est le fédéré, mais dans ce cas-là, il y a un peu plus de lecture à faire. Et l'objectif ici, comme c'est une introduction, c'est pas d'entrer dans le détail de chacune des options. Donc, je t'ai fait ici la partie Dropbox. On va faire une version simple. Maintenant, on va faire Twitter. Donc, on va faire une application à partir de la galerie. On va venir chercher Twitter. Qui, je crois, existe. Oui.
Je crois.
Donc là, c'est relativement simple. Il y a écrit ici, utiliser AD pour activer l'accès utilisateur à Twitter. Donc là, en gros, je vais simplement affecter à un utilisateur le fait qu'il a le droit d'utiliser Twitter. Et Twitter, l'utilisateur va mettre un compte Twitter existant. C'est tout. Là, c'est vraiment très très basique. L'application est ajoutée avec succès. Voilà. Donc on voit ici que j'ai moins d'options, par exemple, que dans la partie Facebook, en termes de provisioning, etc. Là, il n'y a pas de provisioning. C'est vraiment très très basique.
Par rapport à Dropbox, ouais.
Ou par rapport à Dropbox.
Business.
Donc là, j'ai configuré l'authentification unique par mot de passe. Donc là, il n'y a pas trop d'options dans ce cas-là. Et je vais ici affecter les utilisateurs. Donc je vais dire par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe. Enfin, je vais faire un utilisateur et on va le changer dans une démo ultérieure. Ce sera plus simple. Donc je vais voir tous les utilisateurs.
Ouais.
Je vais prendre mon petit Pascal Solière qui est ici et lui attribuer l'application. Là, je pourrais saisir pour toi, mais je ne vais pas le faire.
Bah non.
Ben non. Voilà. Désormais, tu as deux applications qui sont disponibles sur ton portail. On pourrait le vérifier. Hein. Je vais me reconnecter ici avec Pascal S sur le portail MyApps, qui, je le rappelle, a été vide tout à l'heure. Tu remarqueras ici que vos applications ont été mises à jour. Cliquez ici pour actualiser.
Il y a toujours ces deux étapes. Ouais.
Voilà. Et là, on voit effectivement apparaître le Dropbox for Business et le Twitter.
Voilà.
Si je clique sur le Twitter, eh bien, le système me dit OK, chaque utilisateur a ce login mot de passe, à lui de les mettre. Là, vos données seront mémorisées en toute sécurité, c'est-à-dire que par utilisateur, les credentials seront stockés, protégés par Azure Active Directory. D'accord ? Mais ils seront stockés comme un portefeuille numérique qu'on a avec des gestionnaires de mots de passe ou autre. Ce n'est plus ni moins que ça. Je ne vais pas faire la connexion parce que là, je n'ai pas tes identités.
Et puis, je ne connais pas mon mot de passe non plus. Donc,
C'est embêtant. mais voilà. L'idée, bon, ça, si je pourrais me connecter avec mes identifiants, mais ça n'a pas réellement d'intérêt. Mais
on a déjà vu. Donc,
si je le faisais comme ça, je le fais avec mes identifiants. Donc là, je vais pas arriver sur le compte Twitter de Pascal, mais sur le mien. Et voilà. Ça veut dire que si je fais ça maintenant, je vais me déloguer, on va le refaire complètement pour te montrer que ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les informations te suivent dans tes périphériques. C'est-à-dire que c'est pas stocké localement, c'est stocké dans l'Azure Active Directory.
Donc,
si tu te loges depuis un autre poste, depuis ton périphérique personnel et que tu as le portail, là encore, l'expérience sera exactement la même. Hein, l'idée est vraiment de faciliter la vie aux utilisateurs. Donc là, je suis connecté, bon, là, c'est Pascal S. Quand je vais cliquer ici, à aucun moment, normalement, on va me demander en fait mes identifiants. Donc là, je suis vraiment sur l'expérience Single Sign-On, qui ici est simple parce que c'est juste une récupération des logins de mot de passe. Et en fonction des applications, on peut avoir des systèmes de fédération et de provisioning également qui sont faits.
Et je peux faire la comparaison avec des services au grand public de type portefeuille de mots de passe pour le web. Et cette solution-là a quand même l'avantage qu'il n'y a rien à installer sur le poste. Enfin, là, il y a une appli, mais sinon, il n'y a rien à installer sur le poste comme extension.
Voilà, là, je mets n'importe quoi juste pour effacer les données que j'avais saisies par rapport à ton compte, qui étaient mes données Twitter. Bon, là, du coup, il ne va pas marcher, il va dire « erreur ». Enfin, si, là, il a gardé mon cookie, mais ça, c'est pas censé marcher.
Oui.
Hop, je me déloque.
Super.
Donc, affecter des applications, plusieurs options. Soit on affecte une application directement à un utilisateur. J'en ai fait l'exemple dans la démonstration. J'ai pris l'application Twitter et je t'ai affecté Pascal, toi, comme utilisateur de Twitter. Soit on peut affecter aux membres d'un groupe.
On a vu l'option.
Voilà. Donc, les groupes, ça peut être soit des groupes qui proviennent des groupes sur site, c'est-à-dire Active Directory, qui est synchronisé via AD, ou des groupes directement qui existent dans Azure AD. Important, c'est que l'affectation dynamique, c'est-à-dire que si un instant T, Pascal fait partie du groupe des community managers, donc il a accès à l'application Twitter, le jour où je le retire du groupe, il n'a plus l'accès à l'application Twitter. Donc il n'y a pas de persistance dans l'affectation des droits. Ensuite, on verra dans un module complémentaire qu'on peut faire de la gestion self-service de groupe. Donc là encore, c'est toujours dans cette notion d'émanciper les utilisateurs. On va voir que dans le portail MyApps, les utilisateurs ont la possibilité de gérer, si l'administrateur l'a autorisé, de gérer des groupes, de créer des groupes. Et donc, on peut avoir par exemple la personne responsable de l'application X, Y ou Z qui va dire, au fur et à mesure, je mets des personnes ou je les enlève pour qu'elles aient l'application qui apparaît directement dans le portail.
Délégation de gestion.
Délégation de exactement de libre service des groupes. Et dans les options d'affectation également, on pourra avoir certains cas qui seront différents en fonction des applications qu'on a par défaut ou des licences. C'est-à-dire dire, par exemple, automatiquement, tu as pu voir par exemple dans certains exemples qu'on avait déjà fait préalablement, que quand tu te loguais, tu retrouvais automatiquement en fait ton Office 365. C'est pas moi qui suis venu le publier, c'est qu'automatiquement, comme il savait que tu avais la licence en tant qu'utilisateur d'Active Directory, il t'a proposé l'application. Ouais, c'est bien fait quand même. En fonction des mots de passe gérés ou pas, on verra souvent comment on les affecte. Donc les licences, l'idée c'est de pouvoir affecter soit directement aux utilisateurs, soit aux membres d'un groupe des licences. Et d'ailleurs, dans les licences qui sont très bien entre guillemets, intégrées et supportées, on a toutes les licences qui sont liées au service de cloud SaaS de Microsoft. Donc je pense à tout ce qui est la suite EMS. Donc EMS, c'est une sorte de gros packaging dans lequel on met Microsoft Intune, pardon, Azure AD RMS, et puis AD Premium. On peut avoir également des licences que AD Premium, on l'a vu dans les exemples d'affectation préalablement, ou des licences IT basiques, ou d'Office 365. Dernier point, pour contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, donc on l'a vu au travers du portail entre guillemets graphique, on peut également le faire en PowerShell et donc affecter des licences utilisateurs en PowerShell, donc du coup de manière un peu plus massive et scriptée. Si on crée donc une entreprise crée ses propres applications qu'elle héberge dans le cloud Azure par exemple, dans lequel elle veut faire de l'identité, enfin, la vérification d'identité par rapport à l'Azure Active Directory. Là, pour autoriser ou pas l'accès à l'application, bah, le plus simple, c'est d'utiliser les groupes. On peut le faire par utilisateur, mais honnêtement, la vie est trop courte. Enfin, je veux dire, dans la D ou la NDS avant, on utilisait les groupes pour effectuer des permissions, bah, là, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de changer
le
modèle.
D'accord ? C'est clair.
Quand on va construire, si vous construisez une application de type SaaS en multi-tenant, là, pareil, il y a des API qui existent pour la partie authentification. Pour référence, ici, on laisse les liens. Et puis pour d'autres applications SaaS, eh ben, on peut les provisionner soit de manière individuelle vis-à-vis de l'Azure AD, soit de manière groupée encore. Et là, c'est les exemples qu'on a fait tout à l'heure quand je vous ai montré le cas de Dropbox, par exemple. Voilà, se termine ce module qui était à la fois un petit peu riche et à la fois pas assez riche parce que ce n'est qu'une introduction à Azure Active Directory. J'espère que vous l'aurez compris que le portail MyApps donc, est multipériphérique, avec même des applications pour iOS Android, qui permet d'accéder à des applications qui soient propres à l'entreprise, dans des services cloud de Microsoft, des services externes, et qu'on peut même atteindre des services internes de l'entreprise au travers en fait, de Azure Web Proxy.
Merci Stanislas.
Suite des fonctionnalités qu'on peut voir dans ce portail dans les prochains modules.